Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir, le MacPol.
Vincent Parisot.
Le magazine politique de la rédaction d'RTL avec ce soir l'essentiel du grand jury d'Yannick Jadot, l'eurodéputé Europe Écologie des Verts. Le reportage MacPol, 500 ans pardon, après la création du Parti communiste, portrait d'un jeune sénateur PCF. Et puis après la visite du général Sissi, avec ses archives, Jean-Mathieu Pernin nous rappellera que les dictateurs ont été nombreux à passer par l'Élysée.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, était donc à la mi-journée l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il a bien sûr largement été question de la crise sanitaire et des nouvelles mesures annoncées jeudi dernier, notamment le report du retour des activités culturelles. On a entendu hier le comédien Charles Berling dénoncer une haine de l'artiste. Alors qu'en dit Yannick Jadot ?
Je ne dirais pas que c'est une haine de l'artiste, mais clairement, ce gouvernement a décidé de sacrifier la culture, qui arrive comme le dernier des secteurs. Vous vous rendez compte qu'on a une conférence de presse du Premier ministre. À chaque conférence de presse du Premier ministre, vous avez les ministres de tutelle qui sont là. Quand on parle de la culture, vous n'avez pas le ministre de la culture, la ministre de la culture, vous n'avez pas le ministre de l'économie. J'aimerais rappeler que la culture est évidemment essentielle, que les écoles de musique, les salles de spectacle, les cinémas avaient travaillé et ont travaillé à un protocole sanitaire extrêmement sérieux, qu'ils envisageaient, qu'on leur avait promis la reprise, et qu'aujourd'hui, non seulement on les sacrifie en disant « finalement, vous n'êtes pas une activité essentielle, vous n'êtes pas des personnes essentielles », j'aimerais rappeler quand même qu'il y avait un rapport du gouvernement qui disait que la culture, c'était 7 fois la valeur ajoutée de l'industrie automobile.
Mais ça veut dire que concrètement, vous proposez quoi ? Vous dites qu'il faut les réouvrir
maintenant ? Il faut les réouvrir.
Dès demain ?
Il faut les réouvrir comme c'était prévu.
Dès le 15, dès mardi.
Je demande la réouverture de toutes les activités culturelles sous protocole sanitaire strict. Je crois que quand on voit l'état de notre société, l'état au mieux de fatigue, de lassitude, au pire de dépression, la culture, c'est quand même... on ne peut pas simplement survivre dans ce moment-là. Il faut aussi continuer à s'épanouir.
Voilà, Yannick Jadot qui demande la réouverture des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des activités culturelles au 15 décembre comme c'était prévu. Alors, autre thème abordé, la responsabilité des autorités dans la gestion de cette crise. Et cette question posée à Yannick Jadot, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, soupçonné d'avoir fait pression pour modifier un rapport d'experts sur le nombre de masques à commander. Jérôme Salomon, donc, peut-il rester ?
Non. Non, il y a un enjeu de confiance essentiel dans la gestion de cette pandémie. On sait à quel point les Françaises et les Français, dans leur grande responsabilité, appliquent les règles, mais sans en comprendre parfois les tenants et les aboutissants. Et on sait à quel point le fiasco des masques a été un élément de rupture dans la confiance de la gestion sanitaire de cette pandémie.
C'est une responsabilité politique au-delà.
Une responsabilité politique. Mais enfin, on a quand même le patron de la santé. Le patron de la santé, qui nous expliquait au mois de mars que ce n'était pas nécessaire que tout le monde porte des masques, qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème de disponibilité, de pénurie de masques. Et en fait, on nous apprend qu'il est un des responsables du fait qu'on ait aussi peu de masques disponibles à cette époque. Je pense qu'il doit partir.
Jérôme Salomon doit partir, estime donc Yannick Jadot, dont la candidature présidentielle ne fait guère de doute après son succès des régionales. Alors, avec ou sans primaire, avec ou sans l'étiquette Europe Écologie des Verts, Yannick Jadot va-t-il se lancer dans la course ?
Je m'y prépare. Je m'y prépare parce que je pense que nous avons besoin, dans notre pays, en 2022, d'une alternative, qui soit une alternative enthousiasmante, qui nous redonne collectivement de l'espoir pour créer du boulot, pour retrouver de l'égalité entre les territoires, pour retrouver le contrôle de nos vies, nos déplacements, notre logement, l'urbanisme, notre alimentation, l'agriculture. Quand je dis que notre projet est un projet de relocalisation de l'économie, vous voyez bien si on veut une société
ouverte,
il nous faut cette alternative.
Vous avez dit en août dernier, dans Libération, vous expliquez que l'écologie devrait avoir sa candidature avant janvier. Janvier, c'est dans 15 jours. Donc concrètement, comment ça se passe ? Donc pas de candidat en janvier et pas de candidat des Verts avant des mois ?
Ça vous convient, ça ?
Je souhaitais qu'effectivement, à la rentrée, y compris parce que la perspective, c'était de parler du plan de relance, c'était de parler du monde d'après, c'était de parler d'une nouvelle phase, d'un nouveau cycle politique dans notre pays, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel rebond de la pandémie. Bon, ça, c'est sorti. Ça n'est plus d'actualité. Ce que j'ai dit, c'est que si nous voulons gagner en 2022, et nous avons l'impérieuse nécessité de gagner, et nous pouvons gagner, il nous faut une candidature unique d'un rassemblement qui va entre Mélenchon et Macron. Et ce que j'ai dit, c'est que les Verts, Europe Écologie Les Verts, a défini son dispositif de désignation d'une candidature écologiste. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que toutes ces étapes intermédiaires devront être réévaluées sur un seul objectif, se rassembler pour gagner.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Yannick Jadot. On est avec celui qui a mené le débat. Bonsoir Benjamin Sportouche.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Alors est-ce que, d'après vous, il a fait un pas de plus vers sa candidature présidentielle ?
Il en rêve de la présidentielle, Yannick Jadot. Et là, on a bien vu qu'il se mettait dans cette posture-là. C'est quelqu'un qui veut montrer qu'il a de l'autorité. Pour lui, Jérôme Salomon n'a plus sa place comme directeur général de la santé. Pour lui, sur la vaccination obligatoire, on voit bien qu'il écoute l'opinion. Donc ça aussi, c'est la posture d'un candidat. Il voit que l'opinion n'est pas favorable à la vaccination obligatoire, position qu'il avait prise. Il revient subrepticement dessus en disant, bon, on verra en fonction de l'évolution de la pandémie et l'évolution de cette vaccination.
À l'évidence, il veut ratisser large parce qu'il a cité des personnalités de la droite.
Exactement, vous avez vu que ça nous a tous fait sourire, et Marion Mourgue en particulier qui lui a fait remarquer, bah, vous venez citer Gérard Larcher, puis après il a cité Rachida Dati sur la loi séparatisme, dont il dit, attention, je ne la voterai pas, mais en même temps, il se montre très ferme, il veut être très ferme sur la laïcité. Là, il essaie de trouver un point d'équilibre qui est compliqué dans sa famille politique d'origine.
Le grand défi, c'est sa candidature à l'élection présidentielle, c'est le combat de la présidentielle, ou c'est d'arriver à être désigné par sa famille politique ?
Le plus difficile, ça va être d'être adoubé par Europe Écologie Les Verts. Cette primaire, il n'en veut pas. On a bien compris que pour lui, c'était un piège, que pour lui, c'était une machine à perdre. Il l'a déjà dit, il l'a répété. Ce qu'il souhaite vraiment, c'est qu'elle n'ait pas lieu, cette primaire, qu'elle s'évanouisse d'elle-même, et que finalement, il arrive comme le candidat un peu naturel d'Europe Écologie Les Verts. Mais ça va être très compliqué, parce que sur plusieurs sujets, ses prises d'opposition sont clivantes, et ne font pas l'unanimité. Par exemple, quand il parle là de l'interdiction du voile pour les fillettes, il n'en veut pas. Pourquoi ? Parce que dans sa famille politique, eh bien, ça ne passerait pas. Donc il fait en sorte de ratisser large dans l'échiquier politique, mais surtout dans sa famille. Il ne veut pas trébucher au sein d'Europe Écologie Les Verts. Mais sinon, quelque part, on a entendu que eh bien, s'il n'a pas de primaire, ou même s'il y a primaire et qu'il n'est pas élu à cette primaire, peut-être ira-t-il sans les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. Voilà la petite musique qu'on a entendue.
Merci Benjamin Sportouche.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Et le reportage MacPol à présent consacré au PC, au Parti communiste français créé il y a exactement un siècle. C'était en décembre 1920, lors de la scission du congrès de Tours de la SFIO. Alors, montée en puissance, apogée dans les années 60 et 70, avec des scores supérieurs à 20% lors des législatives, et puis le déclin avec François Mitterrand, et aujourd'hui un parti qui a bien du mal à exister à l'ombre de la France insoumise. Le PCF ne joue plus dans la cour des grands, c'est certain, et pourtant, certains jeunes élus sont sûrs que l'avenir de la gauche passe par le PC. Bonsoir Jacques Seret.
Bonsoir.
Alors vous avez rencontré Jérôme Bacchi, jeune sénateur communiste et patron de la Fédération des Bouches-du-Rhône.
Oui, la moyenne d'âge des sénateurs est de 60 ans, lui n'a que 34 ans.
Je me suis engagé très jeune en politique, quand je suis rentré en seconde, j'avais 15 ans. Ça fait maintenant presque 20 ans que je suis adhérent du Parti communiste français.
Jeune, mais déjà avec une longue expérience politique, et pour cela, Jérémy Bacchi dit s'inspirer du métier qu'il a d'abord exercé durant 7 ans, assistant social dans le secteur du handicap à Marseille.
Mon métier, je ne dirais pas que c'était une vocation, mais c'était quelque chose qui me semblait aller de soi, naturel, en tout cas conforme à mes principes, à mes valeurs et à ce que je voulais faire. Et l'engagement politique était, de mon point de vue, une continuité pour plus de justice, pour accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Car c'est ainsi qu'il voit sa mission de parlementaire, et le sénateur ne se verrait pas ailleurs qu'au Parti communiste français.
C'est pas moi qui le disais, c'était Yvon Gattaz, le patron des patrons dans les années 80, qui disait, on ne dirige pas le pays, la France, de la même manière avec un Parti communiste français à 30% et un Parti communiste français à 5%. Et donc, j'ai toujours considéré qu'il fallait renforcer ce parti-là si on voulait renforcer l'intérêt du peuple dans son ensemble, en réalité, des travailleuses et travailleurs, des jeunes, des retraités.
Un engagement qu'il d'y tenir, notamment de son grand-père, résistant communiste.
Oui, mais alors, Jacques, aujourd'hui, ce parti, on le voit, est dépassé à l'extrême-gauche par la France insoumise. Jérémy Bacchi n'a jamais pensé à changer d'équipe de sénateur ?
Non, c'est hors de question pour Jérémy Bacchi.
Je peux vous garantir que non, ça m'a jamais traversé l'esprit.
Il voit les insoumis comme des réformistes, tandis que lui se décrit comme révolutionnaire.
Changement révolutionnaire, ça veut dire changer en profondeur les structures de l'État, des moyens de production, finalement changer en profondeur tout ce qui fait la société d'aujourd'hui, dans le sens capitaliste du terme.
Il s'agit là de l'ADN du PCF, selon ce sénateur, qui assume pleinement l'histoire de son parti.
Pour moi, le Parti communiste français, c'est quoi ? C'est 1936, c'est les grandes grèves ouvrières qui permettent les congés payés. c'est l'engagement dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et qui permet de jeter les nazis hors de France. C'est le parti qui crée la sécurité sociale à la Libération, le statut des fonctionnaires, c'est aussi le système de retraite. C'est le premier parti à s'être battu contre la colonisation et pour l'indépendance des colonies. Après qu'on dise, il y a eu des expériences, je sais où vous voulez en venir, sur les pays de l'Est, etc. Bien sûr que c'est pas la conception que j'ai du communisme. Mais moi, à aucun moment, je me suis dit, quand j'adhère au Parti communiste, c'est la vision qu'il défend du communisme. Pas du tout, en plus. Il a même condamné à plusieurs reprises. Et pour le coup, la chance que j'ai, c'est que l'histoire du Parti communiste français, bah, elle est plutôt belle.
Et même après un siècle d'existence, l'histoire du PCF est, selon lui, loin d'être terminée.
Moi, mon ambition, elle est claire, c'est de dire comment on arrive dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou plus tard, à prendre le pouvoir dans ce pays. En tout cas, c'est ce à quoi je me bats. C'était mon grand-père me disait, c'est pas parce que la société idéale, elle n'existe pas, qu'il faut pas se battre pour. Parce qu'en se battant pour, vous arrivez à construire une société qui est quand même nettement plus agréable que celle que nous avons aujourd'hui.
Voilà, Jérémy Bacchi, jeune sénateur communiste, 100 ans après la création du PC, un reportage MacPol signé Jacques Serret.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Alors, comme chaque dimanche, on ouvre les archives, on regarde vers le passé à la lumière d'un événement d'actualité. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir.
Or cette semaine, eh bien, la visite à Paris du président égyptien a fait polémique. Un chef d'État autoritaire reçu à l'Élysée. C'est pas nouveau et ça vous a rappelé quelque chose, hein ?
Officiellement, bah, c'est toujours pour faire avancer les droits de l'homme. Et étrangement, ça se finit toujours par une remise de Légion d'honneur. La visite à l'Élysée d'un dictateur, d'un autocrate ou d'un président au parti unique est une constante et le recordman des visites élyséennes, c'est lui.
Le nouveau président de la République gabonaise séjourne en France depuis mardi. Monsieur Bernard Albert Bongo arrivait ce matin au palais de l'Élysée, accueilli par Monsieur Jacques Foccart, après un entretien avec le général de Gaulle, que suivit un déjeuner offert en l'honneur de Monsieur et Madame Bongo par le président de la République et Madame de Gaulle.
Omar Bongo, président du Gabon pendant 46 ans, candidat unique aux élections présidentielles de son pays, a été reçu par De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Chirac et Sarkozy. On appelle ça un ami de la famille, ou certains diraient un bon client. Tout dépend où l'on se passe.
Effectivement, et certaines visites diplomatiques ont fait plus polémique que d'autres, hein.
Oui, parce que si certains chefs d'État africains comme des Émirats du Golfe ne provoquent plus d'émotion, en 1985, il y a eu comme une tension au sommet de l'État. En effet, le 4 décembre de cette année, François Mitterrand devient le premier chef d'État occidental à recevoir le président polonais, le général Jaruzelski, auteur de la répression contre le syndicat Solidarność en 1981. Et même le premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, s'en émeut à l'Assemblée nationale.
La visite, même rapide, du chef d'État polonais m'a personnellement troublé. La décision de recevoir un chef d'État étranger relève du président de la République et de lui seul.
Autre visite polémique, le 10 décembre 2017, Nicolas Sarkozy reçoit en grande pompe et en grande tente Mouammar Kadhafi pour une visite de 5 jours. Le guide libyen est revenu dans le jeu diplomatique en aidant à la libération d'otages, hein, des infirmières bulgares. Une libération dans laquelle s'était impliquée la France. Et Nicolas Sarkozy ne voit pas où est le problème.
C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le café Flore et le Zénith. Mais ces postures, elles ont laissé pendant 8 ans ces malheureuses infirmières. Et j'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme.
Un an plus tard, ce sera Bachar el-Assad qui sera reçu pour assister au défilé du 14 juillet. À chacun son dictateur. François Hollande recevra le président cubain Raúl Castro en février 2016, 21 ans après la visite de son frère Fidel, aux côtés de François Mitterrand. Pour l'occasion, en 2016, une association pro-castriste va s'en prendre au journaliste Hugo Clément dans les salons de l'Élysée. Séquence étonnante.
T'arrêtes ou on va faire un scandale ici, alors du coup.
Bah, c'est la liberté de la presse, monsieur, on n'est pas à Cuba ici. Hein.
Mais bien sûr. Mais vous avez de la chance qu'on n'est pas Cuba. Vous avez de la chance.
Sinon, il se serait passé quoi ?
Ne provoque pas, c'est pas la peine. Ne provoque pas.
Vous me menacez, vous dites que vous avez eu de la chance. Sinon, il se serait passé quoi ?
Ah, vous seriez mort. Hein. Je trouve.
Et pendant ce temps, les droits de l'homme ? Oh bah ça avance, c'est sûr. Hein. La prochaine fois.
Oui, la prochaine fois. Merci Jean-Mathieu Pernin. Ainsi se termine ce MacPol. Et dans un instant, on accueille Alain Bougrain-Dubourg comme chaque dimanche soir. On va refaire la planète.